que le langage participe de l'émancipation. Aussi bien émancipation corporelle que cette émancipation cognitive, intellectuelle qui va passer par le langage. Troisième idée importante aussi, la production extraordinaire. On a entendu extraordinaire, on a entendu exploit, on a entendu prouesse. Et on voit bien que la petite fille qui est capable de faire un rappel de récit deux fois plus long, trois fois plus long que ce que ces mêmes élèves étaient en situation de faire X jours avant, elle est dans l'exploit, ça se sent. On voit bien l'extrême valorisation dont elle est le témoin, avec sa copine, enfin le père qui est en face et qui tient à distance l'album et qui lui renvoie cette idée que voilà comment on avance toutes les deux autour du rappel de récit. Donc ça, je crois que c'est très intéressant, surtout pour des élèves de maternelle. Et on n'est pas alors forcément dans la performance ou la compétition, on y reviendra, mais cette idée que c'est... Voilà, on est à l'école et c'est différent. Et tout ce qui se joue, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit participe de cette différence et du caractère. Alors, on pourrait jouer sur les mots exploratoire et exploit. Voilà. D'accord. Cette idée, ensuite, que... Au niveau du langage, comme au niveau des situations, on est bien dans l'émergence d'un projet d'apprentissage. J'ai trouvé la formule intéressante. Elle permet toujours de dire que ce n'est pas le langage pour le langage. C'est le langage dans des situations, dans des domaines d'apprentissage, dans des logiques de projet. Et c'est peut-être là le cœur de la stimulation, finalement, aussi bien pour les collègues que pour les formateurs, que pour les chercheurs, et sans doute aussi pour les élèves. Qui, de près ou de loin, doivent être conscients de cette nébuleuse, de ce qui se passe au-dessus de leur tête, parce qu'ils se sont bien rendus compte que maîtresse, elle fait des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire, et que là, elle se met à nous faire travailler d'une certaine manière. Je dirais, ce sont des participants actifs à la recherche. L'idée du support, le fait qu'il y ait un même support et qu'on s'interroge, est-ce que c'est escalade ou gymnastique? Est-ce que c'est littérature ou compréhension? Et vous voyez, le « et ou ». Qu'est-ce qu'on fait du même objet? Qu'est-ce que je fais de l'album comme objet? C'est un objet, c'est un support, exactement comme le banc. Et à partir de là, je décide que ce matin, le banc est un arbre magique, un espace fantastique, ou tout simplement un banc dont on va se poser la question comment le franchir. Ou alors, de l'autre côté, j'ai l'album et je suis en littérature, donc espace de confrontation avec un texte, de rencontre avec le texte, ou alors je vais directement sur des questions de compréhension. C'est là, d'ailleurs, que ça bagarre, hein, finalement. Pourquoi? Parce que, et les collègues l'ont bien dit, je vais avoir des consignes différentes. Escalade, il s'agit de monter le plus haut. Gymnastique, il s'agit de faire des figures. Donc si j'ai des consignes différentes, donc un langage différent, alors je construis un horizon d'attente et donc un horizon de discours différent pour le même support. Et là, on est bien sur la problématique et de la place du langage oral, et de son efficacité ou de son impact, et ensuite de ce qu'on en fait en formation. Pourquoi? Parce que du coup, à une situation stable, c'est ce qu'ont dit les collègues, on va revenir, plusieurs séances, j'ai des sollicitations différentes. Donc le même album peut servir, dans une même situation de lecture et des situations répétées, peut générer des sollicitations différentes. Donc le langage fonctionne comme une variable d'ajustement, alors pédagogique, didactive, cognitive. On voit bien qu'on a cet empilement très, très intéressant de fonctions. Du coup, la question qui a été posée, alors je crois dans cette zone, mais je ne me rappelle plus qui vraiment l'a dit, est-ce qu'il y aurait une différence entre dire « poser les mêmes pour » ou alors « poser les mêmes puis » ou alors « d'abord on pose les mêmes ». Allez, montrez-moi comment on pose les mêmes. Est-ce qu'on les met dans le sens du banc? Est-ce qu'on les met perpendiculairement au banc? Est-ce qu'on met d'abord une main, puis une autre main? Est-ce qu'on insiste sur d'abord les mêmes, puis comment on franchit? Quel est l'effet produit? Et après, la question est, tout de même, est-ce que le rappel de récit suffit à considérer que l'enfant a compris le texte? D'accord? Que fallait-il comprendre? Qui avait-il à comprendre dans le texte? Ça, c'est encore une toute autre affaire. C'est-à-dire que l'exploit qui consiste à voir une élève en difficulté capable de rappeler un récit de manière extrêmement précise, est-ce que ça suffit pour dire qu'elle a compris? Au moment où elle dit « stupide renard », Est-ce qu'elle a compris ce que voulait dire stupide? Pourquoi est-ce que le texte ou elle utilise l'adjectif stupide, hein, stupide renard, avec phénomène d'antépos. Alors c'est dans l'album, mais voyez, elle le retient, elle le dit, elle le propose comme tel, et ça marche. Pensez à ce qui se passe très souvent en début de matinée autour des comptines. Hein. Au bout de la deuxième reprise de la comptine, les élèves sont quasiment capables de la... ils la savent par cœur. Ils savent même les intonations que vous leur avez données à l'initiale, en première lecture. Pour autant, comprennent-ils la comptine? Surtout les comptines, parfois un peu fantaisistes, totalement décalées en termes de compréhension que nous leur proposons. Donc vous voyez, le rappel, la mémorisation ne suffisent pas à dire « il y a eu compréhension ». Je ne dis pas qu'il ne faille pas pour autant faire ce genre de travail. Hein. Attention, parce que je suis à fond pour, hein. D'accord? Mais j'ai les précautions. Comme je n'ai pas passé les cafipenf demain matin, là de ce point de vue-là, je peux dire « bon, attention, attention, c'est jamais tout à fait réglé ». Parce que toutes ces façons de faire et de dire, et Patrick a utilisé le verbe, hein, est-ce qu'on ralentit l'action et l'apprentissage? Est-ce qu'on le décompose? Est-ce qu'on le cadre? Est-ce qu'on est là pour rassurer l'élève, le maître? Est-ce qu'on est là pour ouvrir des possibles? Vous voyez, on va d'abord poser les mêmes, puis, OK, donc là, je mets de la chronologie, donc je mets du cadre. Par contre, comment pourrait-on poser les mêmes pour franchir le banc? Là, j'ouvre. Tiens, on pourrait essayer une main, deux mains. Ah ben, un petit gamin pourrait dire, moi, je n'ai pas besoin des mains, ou je les mets comme ça, d'accord, je les mets comme ça, et je saute, ou je vais sauter directement, ou tiens, d'une main, je peux sauter. On connaît ces problèmes-là. Autre aspect intéressant, le rapport entre jeu et langage. Alors, je vais faire une analogie peut-être un peu rapide, mais tout de même, je me suis dit, tiens, finalement, quand on regarde ces quatre jeux, Kaiowa, hein, le vertige, ilinx, l'imitation, mimicrie, le bazar, aléa, hein, les dés, hein, et, ou la joute, hein, verbale, l'agone, on est exactement sur des jeux de langage. Parce qu'après tout, et surtout les petits, il y a le vertige pour les petits. Prise de risque que de parler. Ah, maîtresse me demande de parler, c'est panique à bord, d'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je dis ce que vient de dire le copain. Pensez ce matin à mon corpus. Alors qu'est-ce que c'est un atelier de lecture? Il y a Reda qui dit on apprend à lire, et hop, Marois, elle répond on apprend à lire. C'est-à-dire, elle ne peut pas participer au vertige de l'interaction verbale parce que c'est trop compliqué pour elle. Donc, elle se contente de changer de stratégie, hein, et d'être le hasard des mots qui arrivent, expédition, expéditeur, expédié, d'accord? L'ajoute, on me demande de parler, de discuter. Mais sur quoi? Alors, sur le rappel de récit, il n'y a pas vraiment bagarre. Mais si on va sur des débats, des discussions, là, il faut leur apprendre à prendre justement le temps de réfléchir à ce que l'autre a dit pour dire « Ah non, c'est pas ça, je ne suis pas d'accord. Hein, » Ce n'est pas quand même facile à faire. D'autant que on pourrait, et ça, vous l'avez dans le numéro de la revue là, de la FEF que j'ai porté, pardon, du français aujourd'hui, Emmanuel Canu, dans un article, dit « Attention, là, en ce moment, on est sur les jeux de mémoire, d'observation, de stratégie, de coopération. » Vous voyez, si vous croisez les deux puces, on voit bien qu'avec les jeux, on a aussi toutes les facettes du langage telles qu'on peut les manipuler pour ensuite devenir, alors là, pour le coup, non pas un petit parleur, mais un grand parleur expert. Hein, j'utilise le langage, vous voyez, comme stratégie, comme coopération, comme mémorisation, quel que soit le cadre dans lequel je m'inscris. Bon, c'était pour l'analogie. Le tout, j'allais dire, mis en rapport avec cette idée d'épreuve, exploit, de performance, de compétition, où se joue l'enrôlement des enfants dans la pratique langagière et le maintien dans l'activité langagière. Juste à propos du lapin, ce qui m'a vraiment passionné, et vous voyez comme quoi n'importe quel bout de corpus... Quand on est science du langage, moi, je suis preneur. N'importe quel bout. J'entends la maîtresse par-dessus découpage syllabique avec effet d'intonation, accentuation. Et voyez bien que son par-dessus, avec après intonation descendante, le banc, c'est bien l'idée que le message, il est là, quoi. Il est là. Et donc, l'apprentissage langagier topologique, il est porté par une certaine façon de dire les prépositions. Et j'en parlais à la pause. Imaginons une grande séquence où je me dis, bon, je veux à la fois les préparer à des lectures d'albums un peu complexes ou des questions d'un traitement particulier de l'espace. Je veux aussi les préparer à rentrer dans l'écrit. le mot qui est devant, qui est derrière, la lettre qui est avant, qui est à côté, qui est, d'accord, le mot qui est au-dessus, sur la ligne au-dessus. Et vous voyez bien, j'ai besoin de savoir où ils en sont de leur rapport au sur, sous, devant, derrière, en dehors. Et quand on entend, voilà, elle a dit de manière très neutre, j'ai vu quelque chose qui était très bien, et puis en même temps, elle dit très bien, d'accord. Et puis la deuxième préposition qui arrive, sur. Alors, on ralentit, on déroule bien la préposition et on l'installe. Donc est-ce qu'elle a réussi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ouais, ça c'est difficile. Et vous voyez que l'exploit, renvoyer au gamin l'idée qu'il y a de l'exploit est porté par le langage. Et l'enfant entend bien cette chose-là. Deux dans l'ours, c'est intéressant, deux dans l'ours. Hein, ça a été proposé comme, enfin, présenté comme une sorte d'approximation, voire une critique, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de passer par dedans avant d'arriver peut-être dans. Hein. Alors il y a eu dedans les cerceaux, dedans le cerceau, dedans l'ours, dans. C'est ce que Elisabeth Nonon appelle les dénivellations. Eh bien, prenons acte que du point de vue des petits, ce qui est intéressant, c'est que cet enfant, il entre dans le jeu des propositions. D'accord ? Il a la préposition en stock, on va dire, dedans. Il l'utilise dans des emplois qui ne sont pas toujours calés au plan normatif, mais il y est. Et c'est ce qui était le plus important. Et voyez que, une fois encore, ou j'allais dire même encore plus, c'est parce qu'on est en motricité et en EPS, pour faire simple, que se développe là une compétence langagière qui sera terriblement transversale et utile quand il faudra, je vous dis, aborder l'écriture ou les récits complexes. Quand on le regarde au plan théorique, du côté de la littérature et à l'université, je ne parle même pas dans les SP, qu'est-ce qu'on a tout de même en tête? La narrativité. La narrativité, c'est raconter. C'est donc qui, où, quand, quoi. Et stop. Ensuite, il y a la figuration. C'est-à-dire d'abord, je raconte, ensuite, je décris. Ensuite, il y a l'énonciation, comment je fais le texte, la fabrique du texte, et ce n'est qu'à la fin que les affects apparaissaient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux enseignants de ne pas être capable ou de ne pas vouloir entrer tout de suite dans la question des états mentaux, parce que toute la formation ne leur permettait pas jusqu'à très, très récemment. Et inversement, les états mentaux des personnages ne suffisent pas pour faire ni le rappel de récit, ni comprendre un texte complètement, si tant est qu'on puisse le comprendre complètement. Voyez bien, hein, c'est-à-dire, on est dans une étape où la question des affects et de tout ce qui va faire avec, hein, c'est-à-dire les émotions, les ressentis, mais aussi les constructions, les raisonnements, hein, vient prendre une place plus importante, à juste titre, que le simple rappel chronologique des actions, de la succession des actions. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut introduire? Il faut introduire un rapport de causalité. C'est-à-dire que pour que les gamins puissent faire le lien entre les états mentaux et la suite logique des actions, encore faut-il qu'ils disent « si le renard fait, c'est parce que ». D'accord ? Et donc, vous voyez, on est là sur du cognitif lourd, qui suppose de passer par des moments langagiers. Alors, expliquer le renard, il est stupide. Essayez de me dire pourquoi il est stupide. Alors, allez, on commence. Le renard est stupide parce que... De même qu'on parle en production d'écrit de lanceur d'écriture, on pourrait envisager l'idée, vous voyez, de lanceur de raisonnement en disant « hop, je vous mets, mais on cherche ensemble ». D'accord ? Alors montrez-moi exactement où est-ce que vous placez sur la maquette le moment où le renard dit à la poule « oh, je suis sourd, j'entends pas bien, si tu pouvais t'approcher là ». Voilà, pour comprendre ensuite ce qui se joue. Donc les états mentaux des personnages, oui. Hein, sans doute un moment décisif, mais à condition de ne pas perdre de vue que ça participe de la globalité des stratégies de compréhension d'un texte. Hein. Là, moi, je travaille sur une soupe aux cailloux, et on voit bien que d'emblée, quand vous entendez « c'est la nuit, c'est l'hiver, un vieux loup s'approche du village des animaux », la question, c'est avant de dire « qu'est-ce qu'on comprend hein, », c'est de voir un peu comment... Tout ça est orchestré, c'est la nuit, tatatan, c'est l'hiver, tatatatan, un vieux loup. Vous voyez comment on monte en puissance. Mais ce qui est zappé, c'est l'adjectif vieux. C'est-à-dire que le vrai problème de compréhension, le sens, ça va être, mais qu'est-ce que ça vient faire, cet adjectif? Tout le reste, on pige un loup qui arrive, danger. État mental de base, il vient pour boulotter, qui une poule, un mouton, peu importe, il y vient. Maintenant, il est vieux. Pfff, Alors là, question. Soit il est trop vieux pour, soit il est tellement vieux que. Vous voyez le système qui se met en place. Et comment je fais pour l'organiser, ça, dans la classe, en grande section? D'accord? Est-ce que la voix va être porteur? C'est la nuit. Je vais froncer les sourcils, descendre la tête, m'avancer vers... C'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. Voilà, je vais spectaculariser, dramatiser, mais du coup, je passe à côté peut-être de l'effet texte. Hein, d'accord? Du coup, quelle est ma conception de la littérature et du langage? Si ma conception de la littérature, c'est une conception fusionnelle, identification, ouverture, tension, imaginaire, ou si j'ai une conception un peu plus techniciste qui m'amène très vite à aller vers la compréhension, vous voyez, même support, mais enjeu différent et travail différent. Alors du coup, les controverses et les tensions, et Patrick l'a dit à un moment donné, en fait, tout le temps, ce qu'il faut faire, c'est se dire, mais si je dis ça, si je propose ça, quelle est ma conception derrière de l'enseignement, de l'apprentissage, de la professionnalité? Hein, vous voyez, l'oral, l'objet oral depuis ce matin, il est d'une nature tellement complexe qu'il est dissuasif. Puisque c'est ça, j'y vais pas. D'accord? Et on peut légitimement considérer que pour beaucoup d'enseignants, il y a un petit peu panique à bord. Je me rappelle des textes d'Elisabeth Nonon rappelant à minima, l'oral, il est labile, il fuit. D'accord? Si je ne l'arrête pas par un moyen quelconque que je note immédiatement ou pas, je le perds. Donc je suis tout le temps sur du très très court terme. Donc pour capitaliser l'effet produit, surtout quand on fait des analyses de construction d'une thématique à l'intérieur d'une discussion, c'est très difficile. Deuxièmement, le grain. Vous l'avez entendu, le grain d'analyse. Jusqu'où on descend? Aussi bien pour le projet Naramus, je le prononce en tant que vieux latiniste, mais Naramus, on est d'accord, égale nous racontons. Nous racontons. Et c'est première personne du pluriel, c'est pas anodin. C'est quoi le bon grain d'analyse? D'accord? C'est-à-dire jusqu'où faut-il descendre pour qu'on puisse avoir véritablement des indicateurs, des observables permettant d'évaluer ce que le langage nous dit. Et par conséquent, est-ce qu'on en fait une expérience de formation et jusqu'à quel point? Vous voyez bien qu'aussi bien pour le produit EPS que ce qu'on vient d'entendre sur le rappel de récit, il faudrait beaucoup plus de temps pour rentrer et qui dans l'outil, qui dans les apports théoriques, qui dans les apports didactiques, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les théories de la compréhension, la didactique de la compréhension telle que Sylvie et Roland la construisent, et puis après, effectivement, la compréhension de la classe. D'accord? Troisième point, les méthodologies de recueil et d'analyse sont extrêmement contraignantes. Vous l'avez senti. D'accord? Je ne peux pas uniquement... Alors, je suis enseignant tout seul dans ma classe. Déjà, si je franchis le pas de la tablette... en prenant des photos, en prenant des petits temps, tout petit temps, une minute ou deux, tantôt à l'initiale de la séance, juste après la lecture de l'album, ou tantôt quand on revient de la salle de motricité, voilà, j'ai pris 3-4 photos, finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Et là, je vais entendre par-dessus, sur, les mains collées, les mains posées. Vous voyez l'emploi un peu métaphorique de coller, les mains collées sur. La maîtresse, elle joue sur coller, sur poser. Alors que le terme technique devrait être tout simplement placé. Elles ne sont pas collées. Et c'est plus que posé, puisque c'est l'idée du positionnement du corps, de membres, au mieux de ce qu'il convient de faire. Puis je me suis dit aussi, finalement, parce que moi, c'est ce qui me concerne, et je finirai là-dessus, ce qui vaut pour l'écriture, et c'est d'écriture de moi à la maternelle, est-ce que ça ne vaut pas aussi pour l'oral? Bon. Alors, à la fois, parce que je vous l'ai dit ce matin, il y a de l'oral dans l'écrit, c'est de l'oral pour l'écrit, et c'est de l'écrit qui permet de s'interroger sur l'oral qu'on est en train de produire. Alors là, je suis un interactionniste absolument impénitent. Mais bon, quand on regarde d'un peu plus près, depuis que cette question se pose, il y a 4 pistes, 4 angles d'intervention et de transposition didactique. Le premier, c'est celui autour de Jacques David, le numéro de repère sur les premières pratiques d'écriture. En gros, si je simplifie, il est sur de l'écriture tâtonnée. C'est-à-dire, on y va, on se lance. D'accord ? On n'a pas peur. Quand je dis on n'a pas peur, l'enseignant n'a pas peur de se lancer. Parce que les élèves, eux, ce n'est pas leur problème. Écrit et ou oral, de toute façon, ils vous suivent. Pour moi, hein, pour moi, c'est pas eux qui sont angoissés devant l'écriture. La page blanche, la piste graphique, on en a parlé, ça ne les trouble pas tant que ça. D'accord, ils y vont, ils prennent un crayon, ils y vont. Bon. Deuxième entrée, Ouzoulias, et Patrick l'a cité. Ouzoulias, c'était extrêmement important, je ne suis pas sûr qu'on l'ait pas parfois réduit à quelque chose qui déformait sa pensée. Là, j'ai du mal, on en a encore parlé avec Jérôme. Quand Ouzoulias dit qu'il faut très rapidement montrer la norme et ne pas être trop dans le tâtonnement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non pas une volonté farouche de normer, mais bien c'est le code qui permet d'accéder à l'écriture, à la lecture. Il n'y a pas à tortiller, il faut un P à loup. Vous voyez, il le faut. Il ne faut pas attendre je ne sais pas trop quoi pour comprendre qu'il y a des lettres muettes et qu'elles sont décisives. Que L, le O, U, ça ne peut pas beaucoup fonctionner. Si j'ajoute un O, un E, c'est tout autre chose. Et si je mets un L majuscule, ah, ça peut être aussi un prénom d'un élève de la classe. Mais sinon, si je veux que ce soit le personnage, bon, les gars, stop, il faut un P et point. On est d'accord avec ça? Donc, quand il dit écriture normée, c'est pas voilà, la violence ou de la norme. Alors après, on a notre troisième, j'allais dire, la ronde dans l'histoire, c'est Devanne, hein, avec son vieux, enfin vieux, attention, hein, on recule dans le temps, c'est tout, sur la notion de lecture-écriture comme apprentissage culturel, c'est-à-dire la dimension culturelle de l'apprentissage. Hein, le sport, culture, on l'a entendu cet après-midi, la littérature, culture, on est tout le temps dans cette dimension alors culturelle scolaire, culturelle extrascolaire, et par conséquent, on n'oublie pas. Et enfin, ce qu'on a essayé de dire avec Dominique, et surtout Dominique, au départ, c'était vraiment sa recherche personnelle, on est du côté du sujet scripteur, en miroir avec le sujet lecteur, hein, Agnès Perrin-Doucet, Brigitte Louichon, Massol, Langlade, d'accord. Et là, effectivement, sujet scripteur, sujet compreneur, c'est pas tout à fait, vous voyez, c'est pas pareil, là, il y a des divergences. Mais il faut chercher la complétude. Et ce que nous, notre pari, c'est de dire... D'emblée, dès la maternelle, la complexité de l'acte d'écrire, j'écris à qui, pourquoi, comment, avec mes propres capacités et avec ma propre envie ou pas d'écrire, on a décidé de la mettre au cœur de l'atelier. Alors, c'est peut-être excessif, c'est sûrement pas précoce, puisqu'on voit bien qu'il se passe des choses. Et que si ça coince, eh ben on le joue dicté à l'adulte. C'est-à-dire il y a toujours le moyen dans l'atelier d'écriture de dire « Bon, allez, là, c'est un peu trop pour nous, pour vous, mais surtout pour nous, hein, on est dans le groupe. Donc, allez, je vous aide un peu, tac, tac, j'écris deux, trois mots, et après, on peut repartir. » Si on garde les quatre mots qui sont là en gras, du côté de l'oral, de la pratique orale du langage, on peut être sur une approche tâtonnée, on y va, on s'essaye, on peut être sur une approche normée, et on est sur une approche culturelle, et on fait le pari de la complexité de l'énoncé long. D'accord? Alors, c'est les repères qui permettent à un moment donné de considérer que, quelle que soit la situation proposée, quelle que soit l'activité, on va pouvoir jouer sur ces quatre registres. D'accord? Et voir si on peut écrire, on peut parler, on peut déformer des mots, on peut regarder. Ah ben non, ça, on ne dit pas ça comme ça, ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les écureuils, ça n'habite pas dans les écuries. D'accord? Ah bon, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne va pas, cette affaire-là? Alors qu'il y a des mots où ça fonctionne bien. D'accord? Et c'est là qu'on peut peut-être construire avec eux notre rapport à la langue. Il me reste une minute sur le discours scolaire. Je vais finir par du théorique, hein, tout de même. Puisqu'on en a parlé, je tenais absolument à en parler. Un discours s'inscrit dans un espace d'échange entre plusieurs discours. Hein, vous voyez, le discours disciplinaire, le discours des disciplines. D'accord? Plus le discours, j'allais dire, extrascolaire. Hein, tiens, tu vas dessiner un rond. Tu vas faire un rond. Tu vas tracer un cercle. Tu vas écrire un O. Vous voyez bien que le matériau langagier désigne quasiment la discipline. Et me dit, attention, je change de domaine d'apprentissage. Bon. quand les collègues de maths me disent oh, « tu sais, c'est pas grave si on n'est pas tout le temps à cheval sur la terminologie », je veux bien, à partir d'un... Une fois qu'ils sont suffisamment grands, bon, allez, on y va, on trace un rond et puis on peut bosser. Sauf qu'après, attention, soit un cercle de centre haut et de rayon, là, ça ne plaisante plus. Donc il faut bien accompagner les enfants dans ces procédures discursives où les choses semblent être un peu les mêmes, mais qui, au bout d'un moment, finissent par s'éloigner sensiblement les unes des autres. Donc, interdiscours. Hein ? Deuxième point, l'intercompréhension. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse un peu s'entendre. D'accord ? Et c'est un des principes forts de la pratique du langage, cette idée que ça passe. Ça passe. Dès lors que l'enfant va poser les mains sur le banc, on y est déjà. Après, par-dessus, c'est une subtilité. Coller, poser, placer, c'est un travail d'approche avec lui. Quel est le mot que je veux moins utiliser ? Quel est le mot que j'accepte que lui utilise ? Et peut-être que ça, simplement la façon qu'il a de poser les mains m'indique comment il interprète. C'est-à-dire qu'il va écarter plus ou moins les doigts, il va les poser sans vraiment les aplatir, je vais sentir qu'il prend l'appui ou pas sur les mains, et donc j'ai une réponse à la manière dont il comprend ce que je lui dis. Enfin, et surtout, parce que c'est une dimension importante, c'est pas qu'une question d'énoncer, il y a d'autres systèmes de signes qui fonctionnent en même temps, et donc cette dimension, cette pratique intersémiotique, elle est en maternelle, à mon avis, constitutive des progrès langagiers. C'est parce qu'il y a des maquettes, des objets, des briques, des bancs, c'est parce qu'il y a tout cet arsenal d'outils que le langage va se construire autrement. Dès lors qu'un enseignant décide de représenter les trois maisons, des trois petits cochons, avec du papier, de la paille, des objets symboliques, pas symboliques, ou de réaliser vraiment, il se passe autre chose dans et le rappel de récit et la prise en compte des états mentaux. D'accord ? Ça se voit tout de suite. Je veux dire, il suffit, là, pour le coup, vous prenez un groupe en me disant « Prof, allez, voyons, tu fais rien ». Et puis un autre prof avec des élèves sensiblement équivalents. Et on met un petit peu en place des maquettes et on voit bien que la production langagière, elle doit être accompagnée. Vous l'avez dit à propos, pour les petits, la théorie de l'esprit, c'est pas comme pour les grands. Tout en sachant que ça commence très tôt. Qu'à partir de 2 ans, 2 ans et demi, ça pointe. Hein. C'est-à-dire le bébé, enfin le grand bébé, là, il est capable de s'apercevoir que maman, bon, voilà, elle a des drôles d'états mentaux. S'agissant de ce que j'ai à faire ou à ne pas faire. Dernier point, et j'en aurai fini, le discours est toujours en relation avec son environnement. Et là, je suis dans l'école et je quitte l'école. L'inscription, elle est socio-historique. Et nos façons de parler ont sans doute évolué, beaucoup évolué. D'accord ? Rappelez-vous cette époque où on demandait aux enseignantes de l'école maternelle d'utiliser à la cantonade le « tu ». « Tu vas ». Comme si le « tu » s'adressant à un élève était davantage, comment dire, pouvait canaliser son attention. Vous voyez, on se rend compte aujourd'hui à quel point ça c'est pas possible, parce que les enfants ne sont pas dupes, ils voient bien qu'on s'adresse à tout le groupe. Par contre, basculer uniquement sur le « on », d'accord, qui se veut, comme je l'ai dit ce matin, très inclusif, ne permet pas de faire fonctionner le paradigme. Je voudrais, j'aimerais, vous allez... Cet après-midi, nous irons, d'accord ? Et puisqu'on en est là, c'est le dernier mot, le verbe faire. D'accord ? Qui est notre verbe de référence absolue. Et donc, quand on dit pauvreté lexicale, interrogeons-nous sur notre capacité à sortir de la pauvreté du verbe faire pour amener un peu plus rapidement des termes un peu plus précis. Voilà pour ce qui est de ma synthèse. Merci bien, en tout cas.